Décryptage, Marie Casadebé.
La proclamation de l'indépendance de la Catalogne n'est qu'une question de jour, c'est ce que déclarait hier soir à nos confrères de la BBC Carles Puigdemont, le président de la Généralité de Catalogne. Une déclaration au terme d'une journée de manifestation monstre dans cette région du nord-est de l'Espagne. 700 000 personnes dans les rues de Barcelone, selon la police locale. Force d'occupation, dehors, pouvait-on entendre après les violences qui ont émaillé le jour du référendum d'autodétermination tant contesté. La journée d'hier a également été marquée par une déclaration du roi d'Espagne, Philippe VI, qui a dénoncé la conduite irresponsable du gouvernement catalan. La situation entre catalans et espagnols semble inextricable, tant les deux camps ne parlent pas la même langue, au propre comme au figuré. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à la crise? Que doit-on attendre de ces prochains jours? La solution peut-elle venir de l'extérieur, d'une médiation internationale par exemple? Notre invité est là pour nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Barbara Loyer.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes la directrice de l'Institut français de géopolitique, spécialiste de l'Espagne. On va d'abord revenir ensemble sur le discours du roi d'Espagne Philippe VI. Avant de se pencher sur le fond, est-il courant que le souverain espagnol s'exprime sur l'actualité?
Non, d'ordinaire, il fait un discours pour le nouvel an. Un discours où il s'adresse à tous les Espagnols. Donc, le fait, en effet, qu'il ait pris la parole hier permettait de souligner la gravité de la situation et le potentiel danger que représente cette situation et les escalades possibles.
Je vous propose de l'écouter.
Avec leur décision, les autorités catalanes ont violé d'une manière systématique les règles approuvées légalement, ce qui montre une déloyauté inadmissible envers l'État. Elles ont rompu avec les principes démocratiques de l'État de droit et sapé l'harmonie et la vie commune dans la société catalane. Une société qu'elles ont malheureusement réussi à diviser. Elles ont voulu briser l'unité de l'Espagne et la souveraineté nationale.
Et la souveraineté nationale.
Barbara Loyer, que retenez-vous du discours de Philippe VI hier, donc à la télévision?
Eh bien, je pense qu'il a voulu donner un cadre à une opinion publique espagnole extrêmement, je pense, désorientée. Désorientée d'abord parce que politiquement, l'Espagne est extrêmement fragmentée. On l'a vu en 2015-2016, la difficulté d'avoir un gouvernement. Ensuite, parce que le gouvernement Mariano Rajoy, quoi qu'on en dise, a choisi pour l'instant une forme d'attentisme, ne réagit pas véritablement fortement, a envoyé la police pour essayer d'empêcher la tenue d'un vote, puis en même temps a replié les troupes assez rapidement quand il a vu que médiatiquement c'était pas une bonne solution. Donc on a une forme de désorientation du gouvernement central, avec dans les radios et les conversations radiophoniques ou télévisuelles, visuel, on sent une émotion qui monte en Espagne, une forme d'indignation, une émotion aussi en Catalogne de la part des citoyens catalans qui ne sont pas pour l'indépendance ou opposés au référendum, l'un ou l'autre. Donc je pense qu'il a voulu cadrer ce qu'était la position de l'État, et il est le chef de l'État.
Et oui, donc il a repris ces termes, unité, pérennité de l'Espagne. Il est finalement dans son rôle d'être le souverain de tous les Espagnols.
Il a réaffirmé son rôle et il a réaffirmé la présence et la réalité d'un État.
Il a beaucoup dénoncé l'attitude des autorités catalanes. Est-ce qu'il donne raison du coup au gouvernement de Mariano Rajoy?
Oui, en ce sens que, si vous voulez, objectivement, les autorités catalanes vont contre la Constitution. La Constitution espagnole ne donne pas aux autorités autonomes le droit d'organiser des référendums. Il faut qu'il y ait, ça passe par le gouvernement central. Et si le référendum est même transcendantal, ça doit même passer par le roi. Donc, oui, objectivement, les autorités catalanes se sont mises en état de rébellion.
Est-ce qu'il, le roi, peut avoir une influence sur cette crise ?
C'est au gouvernement espagnol de prendre les décisions, d'activer l'article de la Constitution qui pourrait suspendre, par exemple, l'autonomie catalane, ou d'envoyer encore plus de police, ou de prendre langue avec les les séparatistes, c'est au gouvernement d'agir. Le roi d'Espagne n'est pas un acteur politique, il est le chef des armées. Donc si les choses tournaient de plus en plus mal, il pourrait avoir un rôle à jouer à ce moment-là, comme ça s'était passé en 1981 lorsqu'il y avait eu une tentative de coup d'État, mais à Madrid, par des militaires séditieux. Là, le roi a un rôle à jouer à ce moment-là. Mais tant qu'on est en dehors d'un cadre militaire, ça n'est pas son rôle.
Alors vous l'avez dit jusqu'à maintenant, Mariano Rajoy met en avant le respect du droit, de la Constitution, d'où aussi les poursuites judiciaires contre des organisateurs du référendum de dimanche ou encore contre le chef de la police régionale. Mais est-ce que le bloc politique qui l'entourait ne commence pas à se fissurer? On sent qu'entre le Parti Socialiste Espagnol ou Ciudadanos, les positions divergent.
En fait, il n'y a pas de bloc politique derrière lui. Il a été élu très difficilement, et pour faire passer son budget, il venait de négocier avec le Parti Nationaliste Basque des accords qui, accordaient tout ce que les nationalistes basques demandaient en matière de fiscalité, ou bien par exemple l'introduction de la police autonome basque dans Interpol. Enfin, donc il a accordé beaucoup de choses pour pouvoir faire voter son budget. Donc il était déjà, il n'est pas dans une situation confortable, sauf au Sénat. Au Sénat, ils ont la majorité absolue, ils pourraient suspendre la Generalitat, le gouvernement autonome de Catalogne, avec le Sénat. Donc du coup, comme il est un peu sur un siège fragile, il cherche le support notamment du Parti Socialiste, parce que traditionnellement le Parti Socialiste et le Parti Populaire sont les deux grands partis qui ont fait la politique espagnole ces dernières années. Il se trouve que le Parti Socialiste est extrêmement divisé pour l'instant. Donc on ne sait pas ce que les socialistes vont décider.
Le Parti Socialiste, en tout cas, a regretté, si ce n'est dénoncé, les violences de dimanche, et a appelé plutôt au dialogue. Est-ce que Mariano Rajoy pourrait suivre cette voie-là?
Le problème, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de dialogue? Là, il se trouve donc que le Parti Socialiste, en effet, avait, surtout le Parti Socialiste catalan, qui est en première ligne, avait appelé ses électeurs à ne pas se déplacer, avait dit que ce référendum était un référendum sans garantie. On a appelé au tribunal constitutionnel parce que le Parlement catalan n'avait pas respecté les droits des parlementaires catalans en votant la loi sur le référendum. Donc, il y a une opposition très ferme et très nette du Parti Socialiste catalan. Mais néanmoins, ils sont bien embêtés avec ces images de répression qui peuvent leur faire perdre leur électorat. Donc, du coup, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont décider. Et puis, de quoi parle-t-on? Là, pour l'instant, parler avec le président de la Generalitat, c'est parler avec des gens qui veulent se séparer, donc, et qui, pour l'instant, disent il y a deux solutions. La première, se séparer. La deuxième, se séparer. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'Espagne. Donc, le but, c'est pas d'améliorer le système espagnol. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de Catalogne dans l'Espagne. Donc on se demande de quoi devrait-on parler.
De quoi devrait-on parler en attendant, Carles Puigdemont, lui, se dit disposé à une médiation, donc à un dialogue. Je vous propose de l'écouter.
Monsieur Rajoy devrait traduire sa pensée en paroles, comme nous le faisons. Nous sommes disposés à une médiation, nous avons dit oui. C'est si simple de la faire, simplement dire oui. Nous sommes ouverts à la médiation, il faut s'appeler, il faut se parler. S'il m'appelle, je réponds immédiatement le jour même. Qu'ils choisissent le lieu de la réunion, celui qu'ils voudront, mais nous demandons que ce soit sans condition.
Alors, vous l'avez dit, de quoi le dirigeant de l'exécutif catalan serait prêt à discuter avec une médiation ou non?
Si vous voulez, la question de la médiation, elle s'est déjà aussi posée lorsque l'ETA devait déposer les armes et admettre une défaite. L'important dans ces médiations internationales, c'est que ça place les nationalistes, qu'ils soient basques ou qu'ils soient catalans, symboliquement au même niveau que le chef du gouvernement espagnol. Il y aurait deux nations, ou il y aurait deux peuples, et une médiation pour éviter des conflits plus graves. Donc on est dans une recherche d'une image symbolique internationale qui mettrait le chef du gouvernement espagnol au même niveau que le chef d'un gouvernement en rébellion, et qui du coup ne serait plus en rébellion, mais qui serait en train de négocier la sortie d'un conflit légitime. Donc on est dans une forme de stratégie de communication, et donc en face, le plus vraisemblable, c'est que le gouvernement espagnol s'y oppose parce que la Constitution dit qu'il y a une nation espagnole indivisible et des nationalités d'Espagne et que, bien sûr, dans l'ordre constitutionnel espagnol, les statuts d'autonomie sont inclus, c'est, ils font partie de l'ordre constitutionnel espagnol, mais la Constitution, c'est la Constitution de l'ensemble de l'Espagne et donc il est le chef de l'ensemble de l'État espagnol.
Donc on comprend qu'une médiation ne serait pas possible, en tout cas Madrid ne l'accepterait pas, mais un dialogue, vous le disiez tout à l'heure, parler de quoi ? Est-ce que Carles Puigdemont est encore prêt à redéfinir, rediscuter du statut de la Catalogne en dehors d'une indépendance, rediscuter de la définition de son autonomie?
Je n'en sais rien. Je pense qu'il est important, pour parler de ça, d'essayer de regarder d'un petit peu plus près qui sont ces acteurs finalement séparatistes catalans. Si vous voulez, le nationalisme catalan a beaucoup évolué depuis les années 80. Il y a une frange qui s'est radicalisée au point d'ailleurs de faire disparaître ce qui était le partenaire centriste non indépendantiste mais catalaniste du centre droit catalan. Donc il y a eu un processus de radicalisation à tel point aussi que Carles Puigdemont en fait ne doit son élection qu'à aux députés d'un parti d'extrême gauche anti-système qui s'appelle la CUP. Et la CUP a prêté quelques voix pour élire Puigdemont puisque la coalition qui s'appelle Ensemble pour le Oui, donc séparatiste, n'avait pas assez de voix au Parlement pour faire élire Puigdemont, et surtout la CUP refusait l'élection d'Artur Mas qui était le président nationaliste catalan sortant. Donc Puigdemont dépend de la CUP. Or la CUP a dit lundi, on déclare l'indépendance sans attendre. Donc et par contre, à l'intérieur de PDCAT, qui est le parti des démocrates catalans, c'est comme ça qu'il s'appelle, le parti de Puigdemont, à l'intérieur du parti de Puigdemont, ça discute beaucoup. Donc, en fait, si vous voulez, là, il y a un peu, je dirais, une sorte d'association entre l'avenir personnel politique de Puigdemont et ce qu'il va décider. Parce que s'il décide qu'il déclare pas tout de suite l'indépendance, il y a une probabilité que la CUP lui retire les voix dont il a besoin.
Aujourd'hui, on peut se poser aussi la question de... Il a organisé donc un référendum coûte que coûte, mais que vaut le résultat? Si je rappelle quelques chiffres, il y a eu 60% d'abstention dimanche dernier, 90% de voix pour le oui, mais les conditions étaient vraiment rocambolesques. Hein. Il n'y a en tout cas aucune garantie que ces résultats soient fiables. Donc finalement, Carles Puigdemont se repose sur quelles données par rapport à cette envie indépendantiste catalan?
Je pense qu'il se repose pas là sur une donnée. On est dans une stratégie en fait, hein, un coup de force dans lequel on peut emporter une décision transcendantale. On peut provoquer le grand soir et donc.
Mais il ne peut pas se reposer sur les résultats de ce référendum.
Ah non, ce référendum a été tenu en dépit du bon sens. D'abord, la loi sur le référendum a été votée contre le règlement du Parlement lui-même, et puis après les historiens diront qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce qui circule sur les réseaux, mais dans ce qui circule sur les réseaux, il y a des gens qui se sont filmés en train de voter deux ou trois fois dans des endroits différents, puisqu'il n'y avait pas le service informatique de la Generalitat était bloqué, donc les gens qui étaient aux tables électorales n'avaient pas de la liste, donc on votait en fait en disant juste son prénom. Il y a quelqu'un qui a montré, qui venait de Madrid, qui n'avait jamais habité en Catalogne et qui a voté. Je ne sais pas si l'histoire dira que c'est une fake news, oui. Mais disons que tout ça circule, et puis on a vu quand même des gens sortir avec des urnes, l'urne tombait par terre, tout le monde ramassait les bulletins, les remettre dans un sac ou dans l'urne pour partir en courant, donc ça peut pas marcher comme ça.
Donc on ne peut pas se reposer hein, sur le référendum. La suite de Décryptage sur RFI. La Commission européenne s'est réunie aujourd'hui pour évoquer la crise. Il est grand temps de dialoguer, a dit le vice-président de cette commission, mais dans le respect de la Constitution. Que comprenez-vous de la position de la Commission européenne? Je précise juste que Frans Timmermans, le vice-président, dit si la loi, le droit nous offre pas ce que vous souhaitez, vous pouvez vous opposer à la loi, vous pouvez travailler pour modifier la loi, mais vous n'êtes pas en droit de l'ignorer. Ça, c'est ce qu'il a lancé aux indépendantistes. Alors, que peuvent faire les indépendantistes dans ce cadre-là?
Alors, il est vrai que la Constitution espagnole, elle n'est pas facile à réformer parce que il faut des majorités qualifiées au Sénat, au Parlement. Et donc, les deux grands partis, Parti Socialiste et Parti Populaire, en fait, tenaient la clé d'une réforme de la Constitution. Mmh. Et les petits partis qui sont tout autour n'avaient pas bien beaucoup de pouvoir pour obtenir cette réforme de la Constitution. C'est sans doute une des faiblesses du système. Et ils ont réformé la Constitution à deux reprises pour introduire des règlements européens ou bien pour justement introduire la règle d'or budgétaire européenne dans la Constitution. Ce qui d'ailleurs a amené le gouvernement central à reprendre une partie du contrôle des budgets des communautés autonomes qui étaient beaucoup trop endettées au moment de la crise. Tout ça pour vous dire que effectivement le système rend difficile. Alors la crise actuelle peut faciliter, on va dire, en fait, une prise de conscience des deux grands partis qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut renégocier cette constitution. Mais la renégociation va être difficile.
Donc c'est ça, quand on parlait tout à l'heure de dialogue, le seul point de dialogue possible, c'est cette constitution qui, pour l'instant, empêche la Catalogne d'organiser un référendum d'autodétermination.
Alors, par exemple, ça pourrait être en effet un des éléments de discussion, mais simplement dans, si vous voulez, on est un petit peu dans une quadrature du cercle, parce que pour les séparatistes, le problème, c'est que la Catalogne, ça fait 7 millions d'habitants, donc ils sont toujours minoritaires. Si on rajoute le Pays Basque, il y en a 2 millions de plus quelques-uns autour. Donc on arrive à, si on rajoute tous les régionalistes d'Espagne, un certain nombre de millions, mais c'est vrai qu'ils sont toujours dans une situation de minorité. Donc comment vont-ils parvenir à négocier et puis en plus la difficulté, si vous voulez, c'est que quand même le projet, c'est de ne pas être dans l'Espagne. Donc négocier pour être mieux dans l'Espagne, ce n'est pas leur projet. Maintenant, ce qu'on va appeler les nationalistes, c'est un ensemble qui peut aussi se diviser, où il y a des nuances, où les gens font finalement opter pour avoir des situations, des choix plus ou moins radicaux.
700 000, près de 700 000 selon la police locale, personnes donc dans les rues hier à Barcelone. Le mot d'ordre avant tout, c'était de dénoncer les violences policières. Carlos García, ce Catalan, était dans le cortège.
Je suis allé voter dimanche. Au début, je n'en avais pas l'intention. Mais en voyant ce qui est arrivé, je suis allé voter avec de la colère et curieusement, j'ai voté oui. Mon vote était pour les punir. Ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. La plus grande fabrique d'indépendantistes du pays se trouve à Madrid. C'est le gouvernement central qui l'est créé. En fait, je suis ici pour défendre les droits de l'homme, les droits universels.
Barbara Loyer, quel a été le poids des images de dimanche dans ce bras de fer et dans la division des Espagnols? On a vu des membres de la garde civile espagnole intervenir brutalement pour empêcher des gens de voter. Ces images ont beaucoup circulé. Est-ce qu'elles peuvent avoir un poids dans l'évolution de la crise?
Les images ont toujours un poids. Vous l'avez bien vu avec la crise des migrants et le petit garçon qui était mort sur une plage, et ça a déclenché des choses qui auraient pu être déclenchées bien avant. Donc les images aujourd'hui ont un poids considérable. Sur la question de savoir ce qui s'est vraiment passé, la géographie des affrontements, les cartes même publiées par El País ou La Vanguardia sont très différentes en fait. La géographie de l'intervention de la police est difficile à interpréter. En fait, on ne comprend pas ce qu'ont pensé les chefs de la police. Sur les chiffres des blessés, ça va de 800 à 4 hospitalisés. Donc là aussi, c'est difficile. Il y a une dame qui a dit sur la radio catalane qu'elle avait, qui a d'abord dit qu'elle avait tous les doigts cassés. Il semblerait qu'elle avait un doigt luxé. Donc si vous voulez, là, je pense qu'il faut, pareil pour les 700 000 manifestants, peut-être, mais je pense qu'il faut un peu attendre, vu l'émotion pour l'instant qui s'est développée. En revanche, ce qu'a dit la personne interviewée, ce qu'elle fait apparaître, c'est l'importance d'une extrême gauche, celle qui a voté pour Ada Colau, et pour un grand mouvement d'extrême gauche en Catalogne. Et là, c'était des gens qui n'étaient pas forcément indépendantistes, mais pour qui le référendum, c'est sacré. Et la police, on peut jamais l'appeler force de l'ordre, elle est forcément police, État et répression.
Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous avoir posé la question de l'avenir du FC Barcelone si jamais la Catalogne devenait indépendante. Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, nous rappelle que le Barça s'est déclaré en faveur du référendum et que le président de la Liga a menacé d'exclure le club en cas de proclamation de l'indépendance. Merci beaucoup Barbara Loyer. Décryptage à réécouter sur notre site rfi.fr. Venez.